20h, 21h.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec toute notre équipe, Justine Vigneault, Émilien Vinet et aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, Marc Bisset à la réalisation technique de cette heure du crime. Et à la une aujourd'hui, une histoire vraiment terrible, une histoire aux allures de tragédie antique, un crime à la Abel et Caïn qui a, on peut le dire, fracassé littéralement la vie de deux paisibles retraités, deux personnes très âgées, 90 et 93 ans, Irène et Michel Brunel, lorsqu'ils ont appris que leur fils, l'un de leurs fils, Dominique, avait assassiné son frère, Jean-Marc. Ces deux personnes avaient deux enfants et l'un a tué l'autre. Comment survivre à un tel drame? C'est tout l'enjeu qui se joue dans une instruction judiciaire qui est encore en cours. Il n'y a pas de procès, mais on va en parler, bien entendu, très longuement avec mes invités. Et d'abord avec Stéphane Boucher. Bonjour Stéphane Boucher.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, réalisateur de télévision et vous avez diffusé dans l'émission Chronique Criminelle sur NT1 votre film, le film de votre enquête sur cette affaire intitulé Fraternité mortelle, parce que c'est l'histoire terrible d'un fratricide. Et on va entrer dans les détails ensemble dans un petit instant, mais il faut dire que cette affaire, elle est en pleine évolution, parce que on va le découvrir à travers les propos des uns et des autres et des avocats qui vont participer à cette émission, que l'auteur du crime dit non, je n'avais pas l'intention de tuer mon frère. Or la justice vient au début de ce mois de juin de requalifier sa mise en examen.
Oui, donc récemment, sur la demande des parents qui insistaient sur ce point-là, le juge d'instruction d'Avignon a requalifié les faits en assassinat, donc en meurtre avec préméditation. Et ce n'est pas tout à fait le même tarif au niveau des assises. On passe de 30 ans à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc Dominique Brunel, qui est en détention aujourd'hui, risque la peine maximale sur cette affaire qui est une affaire assez rare de fratricide, parce qu'il y a souvent, hélas, dans la chronique judiciaire, des affaires d'infanticide ou de parricide. Ouais. Et curieusement, le fratricide est quelque chose, dans les statistiques, d'assez rare dans les dossiers criminels.
Alors là, il faut tout simplement, pour ceux qui découvrent peut-être cette affaire en vous écoutant cet après-midi, remonter aux faits. Les faits, ils vont être connus à partir du 2 novembre 2015, avec la découverte à Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse, d'un cadavre jeté dans un puits du jardin d'une maison. C'est la maison de la victime et cette victime s'appelle Jean-Marc Brunel. Alors avant d'entrer dans le scénario criminel, Stéphane Boucher, il faudrait dire d'abord qui était Jean-Marc Brunel. Il était là depuis pas mal d'années, je crois, dans ce village magnifique aux allures de carte postale, en fait. Hein.
Oui, Châteauneuf-du-Pape, c'est connu pour ses vignobles. C'était la résidence d'été des papes au XIVe siècle, donc c'est un endroit très, très, très agréable, je dirais, tranquille, où il ne se passe pas des crimes tous les quatre matins. Et donc Jean-Marc Brunel, il a 58 ans, il vit seul dans une maison assez cossue, un peu à l'extérieur de Châteauneuf. Et en fait, il a une société de commerce de produits laitiers, en fait, et de fromage, qu'il a fait fructifier après avoir récupéré la société de ses parents. Et donc, il a une vie sans histoire, il est un peu vieux garçon, c'est-à-dire qu'il a une liaison avec une dame qui s'appelle Bernadette, qui est à Marseille. Et en fait, il prévoit de se marier. Bon, il a 58 ans, donc c'est un mariage sur le tard.
Ouais. En fait, c'est une vraie histoire d'amour, mais ils ne vivent pas ensemble. Quoi,
voilà. Elle habite à Marseille. En fait, ils se voient à distance. Et ils ont prévu, début 2016, de se marier, même à leur âge, parce que Bernadette est divorcée, mais Jean-Marc Brunel n'a jamais été marié. Donc, c'est un peu un tournant dans sa vie.
Voilà. Alors, c'est important de garder cette idée de mariage en tête, parce que lorsqu'on va s'inquiéter de ne plus avoir de nouvelles de Jean-Marc Brunel, c'est justement à la toute fin du mois d'octobre 2015, donc très peu de temps avant ce mariage. Alors, il faut dire que Jean-Marc Brunel n'a pas d'enfant. Il est resté très très proche de ses parents. Je voudrais qu'on dise un mot de Irène et Michel, les parents, parce que on l'a dit, ils sont très âgés et c'est le désastre de leur vie qui est en train de se dérouler.
C'est un épilogue terrible pour eux. Ils ont donc 93 et 90 ans. Irène Brunel a 93 ans. Ils sont très âgés. Et en fait, ils vivent en Espagne, près d'Alicante. Ils ont pris leur retraite il y a quelques années. Et
ils ont passé leur affaire
ouais,
à
voilà,
leur,
ils ont
leur
passé, fiche. Ils ont passé le témoin au fils voilà, et ils sont partis. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'ils sont restés très, très attachés à Jean-Marc parce qu'ils ont deux fils et ils ont une relation très, très proche avec Jean-Marc. C'est un peu le fils préféré, donc celui qui a repris l'entreprise, celui qui l'a fait fructifier. En fait, il s'appelle quasi quotidiennement, donc disons qu'il y a un cordon qui existe encore entre eux.
Voilà, et alors là, on arrive à ce qui précède la découverte du drame, parce que malheureusement, on apprendra plus tard que le drame a eu lieu au début du mois d'octobre, mais en cette fin du mois d'octobre, Irène et Michel, qui tentent depuis Alicante en Espagne d'avoir leur fils, n'y arrivent pas, ils n'ont pas de nouvelles de lui. Bernadette, la compagne qui habite à Marseille, elle appelle également à plusieurs reprises le domicile de Jean-Marc, elle n'arrive pas à lui parler directement. Et tout le monde s'inquiète, et en particulier d'ailleurs les parents, parce qu'eux, ils savent qu'au début du mois d'octobre est arrivé à Châteauneuf-du-Pape, chez Jean-Marc, leur autre fils.
Dominique.
Et ça les inquiète. En deux mots, pourquoi ? Parce que ces fils sont très différents l'un de l'autre, je crois.
Bah, disons que c'est un peu le jour et la nuit, Dominique et Jean-Marc Brunel. Jean-Marc Brunel a repris la société familiale, il est resté dans la région où il a grandi. Et Dominique, il a plus un profil d'aventurier, c'est-à-dire que 20 ans plus tôt, il est parti s'installer définitivement en Amérique du Sud, d'abord au Venezuela et après au Panama. Et donc... l'histoire de famille fait que les parents ont toujours été plus proches de Jean-Marc et pour des raisons notamment financières, étaient fâchés avec Dominique. Et Irène Brunel, quand je l'ai vue, m'a dit qu'elle avait un mauvais pressentiment, qu'en fait la présence du fils de Dominique chez Jean-Marc, parce qu'ils avaient gardé, eux, des relations à peu près normales, l'inquiétait. Il y avait une sorte de mauvais pressentiment.
Alors, effectivement, vous avez rencontré les acteurs principaux de cette affaire. Évidemment, pas Dominique Brunel, puisqu'il est incarcéré. Et c'est lui dont on vient de requalifier la mise en examen, en mise en examen pour assassinat. Nous allons avoir dans l'émission, tout à l'heure, dans quelques minutes, Maître Louis-Alain Lemaire. Il est avocat au barreau d'Avignon. Et c'est lui l'avocat des parents de la victime, d'Irène et Michel, donc. Et puis, on aura la parole à l'avocat du mis en cause, l'avocat de Dominique Brunel. Il s'agit de Maître Farid Farissi. Si vous aviez entendu parler de cette histoire, si vous êtes dans cette région, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, des réactions, voire des témoignages, vous pouvez bien entendu profiter du fait que cette émission est à la une de l'heure du crime, que ce dossier est à la une de l'heure du crime aujourd'hui pour les courriels rtl.fr.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Aujourd'hui, à la une de l'heure du crime, ce fratricide, il n'y a pas de doute hein, sur le fait Dominique Brunel a bien avoué qu'il était l'auteur de la mort de son frère. Simplement, ce qu'il conteste, c'est la préméditation, c'est d'être venu en France spécialement d'Amérique du Sud pour une entreprise criminelle, en fait. Hein. C'est la thèse aussi des parents de la victime, de Jean-Marc Brunel, qui pensent que ce fils... on en parlait il y a un instant, Stéphane Boucher... qui est présenté comme un aventurier, est aussi présenté comme un flambeur, comme quelqu'un qui a littéralement harcelé ses parents pour avoir quelques milliers d'euros, quelques centaines d'euros, etc. Au point que les parents ont décidé de le zapper de leur vie, quoi, en fait. Hein, c'est quand même ça la situation des parents par rapport à ce frère d'Amérique du Sud. Hein.
En fait, les parents Brunel donc, sont très âgés, comme on l'a dit, et ont un certain patrimoine. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont créé cette entreprise assez florissante. Et qui a des ramifications à l'international, donc c'est quand même une belle boîte, je dirais. Oui. Et en fait, ils avaient un patrimoine, des appartements et tout ça. Ils ont fait des donations de leur vivant, comme ça se fait. Mmh. Et visiblement, d'après ce qu'ils disent, Dominique en avait... Il en fallait toujours plus. Il était assez exigeant au niveau de l'héritage et des donations. Et en fait, ça a été un peu la source qui a créé le froid entre les parents et Dominique, parce qu'ils avaient des relations assez conflictuelles pour des raisons financières.
Alors maintenant, on va rentrer dans le détail de cette affaire qui est absolument incroyable, qui ressemble beaucoup à une fiction. Ils cherchent à entrer en contact, les parents, Bernadette. Bernadette, elle va voir le frère au téléphone, je crois.
Ben, à un moment donné, à force d'avoir appelé, elle appelle sur le fixe à la maison de Châteauneuf-du-Pape.
Fin octobre 2015, donc.
Hein. Et ça décroche. Et en fait, elle pense que c'est Jean-Marc. Et en fait, non, c'est Dominique, c'est son frère qui est donc dans la maison,
oui. Et, alors,
et elle lui pose des questions, savoir où est Jean-Marc, et en fait il lui dit qu'il serait parti subitement en Ukraine, aller rencontrer des filles pour un voyage qui n'était pas prévu, on ne sait pas trop quand il rentrera, tout ça est assez flou, en plus c'était visiblement pas trop le genre de Jean-Marc.
Oui, d'aller en Ukraine chercher des filles, en plus voilà. Il dit ça à sa compagne, hein, donc c'est quand même un peu bizarre.
Et donc Bernadette, très surprise, qui est en contact avec les parents Brunel, qui sont eux
parents,
en Espagne, qui eux essaient également de joindre leur fils et qui n'y arrivent pas. Donc tout le monde, il y a d'un côté Bernadette et de l'autre côté les parents qui sont très très inquiets. Et donc voilà, l'histoire commence comme ça.
Et alors les parents, ils ont un réflexe, ils cherchent quelqu'un de confiance qui peut aller voir, vraiment se rendre compte un peu de ce qui se passe. Et il y a une femme de ménage.
Parce qu'ils parlent à leur fils au téléphone et qu'il leur dit la même histoire, en fait. Et
le Dominique, là.
Voilà, bien sûr. Leur fils Dominique qui est sur place. Et bon, ils sont fâchés, mais finalement, ils se parlent au téléphone. Et il leur sort la même histoire. Et Madame Brunel, qui avait son ancienne femme de ménage, qui l'a, en fait, elle envoie la femme de ménage qui faisait le ménage chez Jean-Marc. Elle envoie un peu en éclaireur la femme de ménage. Et donc, la femme de ménage arrive au domicile de Jean-Marc, tombe, elle aussi, donc, sur Dominique, qui apparemment a pris ses aises dans la maison, comme s'il était chez lui, et qui lui dit de faire un grand ménage dans le salon. Et en fait, elle remarque à ce moment-là qu'il y a des trucs bizarres.
Il manque un tapis dans le salon. Déjà,
le tapis, le tapis qu'elle voit à chaque fois qu'elle vient a disparu. Et elle trouve qu'il y a des taches brunâtres un petit peu suspectes au sol, sur les rideaux. Et donc, elle prend un peu peur et elle s'en va en courant et elle appelle paniquée Madame Brunel en Espagne en lui disant « il se passe des choses bizarres, le tapis, les traces, etc. etc. »
Alors du coup, on appelle les gendarmes, bien sûr. Les gendarmes se déplacent. Ils vont le voir, le Dominique ? Je ne me souviens plus
donc,
de ça.
Donc, il y a un moment où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc les gendarmes ont quelques infos par les parents Brunel qui ont appelé la gendarmerie locale. Et ils passent un soir et ils trouvent Dominique qui est là.
Oui, il y a de la lumière dans la maison.
Voilà, la voiture de Jean-Marc est toujours là, il y a de la lumière, enfin ils font un tour un peu sommaire, je dirais, des lieux, et ils s'en vont. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très grave dans la maison et qu'ils ont peut-être, ils sont peut-être passés à côté de l'auteur d'un crime.
Et lorsqu'ils retournent pour faire, alors pour le coup, une vraie perquisition, ils vont s'apercevoir qu'il est trop tard, la voiture a disparu, le Dominique a pris la poudre d'escampette.
Voilà. Dès le lendemain, ils arrivent et là, la voiture a disparu, Dominique a également disparu, ils font des recherches rapidement, ils se rendent compte qu'il a passé la frontière espagnole par vidéosurveillance, on le comprend.
On perd la voiture.
Et qu'on retrouve la voiture à l'aéroport de Madrid et on se rend compte qu'il est parti au Panama, son lieu de résidence depuis plus de 20 ans. Et là, les gendarmes auraient pu passer véritablement à côté de l'auteur du crime.
Ben oui. Alors, évidemment, il a quelques heures d'avance. Hein. En fait, il a 12 heures d'avance qui lui permettent de s'échapper. Alors, on continue les investigations. Là, à un moment, les gendarmes vont évidemment, ils vont passer vraiment la maison au peigne fin. Ils vont être aussi troublés par ce qui avait troublé la femme de ménage. Mais en plus, eux, ce sont des professionnels. Et puis, on va tout doucement s'approcher de ce puits qui est au fond du jardin. Et c'est là qu'on va faire la découverte macabre. On est le 2 novembre.
Voilà, toutes les recherches durent plus de 48 heures. En fait, ça commence avant le week-end. Évidemment, on passe les lieux au Blue Star, ce produit qui relève les traces de sang. On fait des prélèvements partout et on se rend compte qu'il y a eu une scène d'une grande violence et sans doute un crime dans la salle à manger. Les recherches reprennent le lundi matin et se dirigent vers le puits parce que dans le quartier, il y avait un artisan qui a témoigné devant les gendarmes et qui a dit il y a quelque temps, j'ai rebouché un puits à la demande d'un habitant des lieux. Et visiblement, c'était
le frère Dominique.
Voilà, il a rebouché un puits sans savoir ce qu'il y avait véritablement au fond. Il a coulé une dalle. Et ce témoignage, évidemment, pousse les enquêteurs à aller inspecter ce puits qui est dans la propriété de Jean-Marc.
Voilà. Et donc après, la suite, on l'imagine facilement. On va casser cette dalle. On va trouver le cadavre enveloppé dans un tapis, qui manquait à l'intérieur de la maison.
La femme de ménage avait vu juste, parce qu'on retrouve le corps de Jean-Marc Brunel enroulé dans un tapis, dans une bâche.
Il a les mains liées.
Les mains liées dans le dos et il présente des traces de coups sur l'arrière du crâne. Donc l'hypothèse criminelle, à ce moment-là, ne fait pas l'ombre d'un doute.
Voilà. Donc là, on est au début du mois de novembre 2015 et à partir de là, il va y avoir un mandat d'arrêt international parce que tout désigne évidemment la culpabilité de Dominique, le frère qui est parti là-bas. Sauf qu'il va échapper pendant pas mal de temps aux investigations. Et on va revenir à la suite de l'histoire avec vous, Stéphane Boucher, dans un petit instant. Et puis avec également, comme je le disais tout à l'heure, avec Maître Louis-Alain Lemaire, qui est l'avocat des parents de la victime et qui pourra nous parler évidemment de la manière dont ces malheureux ont vécu toute cette séquence, sachant que l'un de leurs enfants avait tué l'autre.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous sommes en compagnie de Stéphane Boucher, invité de l'heure du crime aujourd'hui. Stéphane Boucher, journaliste, réalisateur de télévision, spécialiste aussi des enquêtes sur les faits divers et les grandes affaires criminelles. Et il a filmé une enquête. C'est l'histoire de ce terrible fratricide aux allures à la fois de machination odieuse et machiavélique d'un côté, avec l'aversion, on y viendra tout à l'heure, de l'auteur des faits qui dit oui mais non, c'est une altercation qui a mal tourné. Sauf que Stéphane Boucher, il y a dans l'enquête et dans l'instruction des éléments qui sont extrêmement accablant pour Dominique Brunel, parce que c'est la section de recherche de Marseille qui mène l'enquête sur cette affaire. Vous l'avez dit, la voiture, elle a été retrouvée à Madrid sur un parking d'aéroport. On sait qu'il est parti effectivement se réfugier à Panama. Et l'enquête continue dans la maison où on vient de trouver le corps enveloppé dans ce tapis, dans cette bâche. Et là, les enquêteurs vont aller de découverte en découverte.
Oui, donc habituellement, quand on découvre un corps, on fait toutes les recherches autour de la victime. Et en fait, on se rend compte, les gendarmes de la section de recherche de Marseille se rendent compte que après la date présumée de la mort de Jean-Marc Brunel, qui est au milieu du mois de
13 octobre. On imagine que c'est 13 octobre, on y reviendra tout à l'heure.
En fait, c'est le jour où il a...
On sait que le 13 octobre, il était vivant, en tout cas, parce qu'il a envoyé un fax à son père, et il n'y a que lui qui pouvait l'envoyer.
Et à partir de là, c'est le trou noir, sauf que ses cartes bancaires continuent à fonctionner après le 13 octobre. D'accord. Donc, les gendarmes en déduisent que c'est sans doute Dominique qui a utilisé les cartes bancaires. Il s'est fait visiblement passer pour son frère auprès de la banque aussi, donc parce qu'il y a une sorte de vague ressemblance physique entre eux. Il s'est fait passer pour son frère auprès de la banque.
Le banquier n'y a vu que du feu, quoi.
Et en fait, il a contracté un prêt de 9000 euros, il a fait des chèques, il a encaissé des chèques de son frère, donc il a fait un peu la razzia sur l'argent de son frère. Et disons que ça, c'est quand même un élément accablant. Et aussi, on se rend compte qu'il avait une moto, parce que Jean-Marc Brunel venait de s'acheter une moto, il était passionné de moto, et en fait, la moto a été vendue. Et même, on s'est rendu compte qu'il avait commencé à faire visiter la maison de son frère pour la vendre. Donc, ça fait un peu beaucoup.
Ça fait effectivement beaucoup. Alors, on va revenir après sur la suite de l'enquête avec vous, parce que pendant ce temps-là, évidemment, Dominique Brunel, il court toujours, il est à Panama, on n'arrive pas à savoir où il est, est-ce qu'on va pouvoir l'arrêter, etc. C'est très complexe, même s'il y a un mandat d'arrêt international. Mais avant, je voudrais qu'on prenne Maître Louis-Alain Lemaire en ligne. Je rappelle que Maître Lemaire est avocat au barreau d'Avignon et qu'il est l'avocat des parents de la victime et des parents de l'assassin. Bonjour Maître.
Oui, bonjour.
Alors, on parlait tout à l'heure avec Stéphane Boucher, dès le début de l'émission, de ces malheureuses personnes, quoi, Irène et Michel, pour qui ce qu'ils vivent doit être extrêmement même inimaginable pour nous, non ? Ce sont deux personnes qui sont dans un désarroi total.
Ah ben, je crois que la pire des choses qui puissent arriver à des parents, c'est de perdre des enfants, un enfant notamment. Mais lorsque cet enfant est mort des coups portés par l'autre enfant, c'est, je crois, pour les parents, la chose la plus terrible qui puisse arriver. Je crois que ces personnes qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'un certain âge, bien entendu, ne s'en remettront pas, malheureusement. Et ils ne souhaitent qu'une chose, c'est que ce procès arrive à son terme et puisse se dérouler avant leur départ de la vie. Et c'est le seul espoir auquel ils se raccrochent à l'heure actuelle. Mais il faut savoir que ces gens-là ont probablement vécu le pire des cauchemars que peuvent vivre des parents dans cette affaire-là, bien sûr.
Et en même temps, ils apparaissent, en tout cas par votre intermédiaire, très, très combatifs, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Stéphane Boucher de la requalification de la mise en examen. Au début de ce mois, la justice a requalifié en assassinat, ça veut dire meurtre avec préméditation. Est-ce que jusqu'à présent, Dominique Brunel n'était, si j'ose dire, impliqué que pour un homicide ?
Oui, tout à fait. Il a initialement été mis en examen pour homicide volontaire, c'est-à-dire pour meurtre, c'est-à-dire un homicide sans préméditation. Mmh. Grâce, je dois le dire, à la sagacité du juge d'instruction qui mène avec une main de maître cette affaire et les différents interrogatoires auxquels il a procédé de Dominique Brunel, force est de constater et de comprendre que finalement Dominique Brunel avait bien évidemment prémédité son geste et son acte avant même de partir du Panama. Et c'est dans ces conditions que nous avons sollicité et obtenu, et cela a été décidé il y a quelques semaines par le juge d'instruction, une requalification des faits qui était initialement d'homicide volontaire en assassinat, c'est-à-dire en meurtre avec préméditation, comme tout à l'heure l'a expliqué Stéphane Boucher.
D'une manière générale, maître, vous avez évidemment une expérience des assises et des affaires criminelles. C'est une affaire rarissime.
J'ai effectivement une certaine expérience professionnelle et comme je fais beaucoup de pénal, j'ai été amené à intervenir dans plusieurs dossiers importants, d'ailleurs dans la région également. C'est la première fois effectivement que je suis amené à intervenir dans un dossier de cette nature où un frère en tue un autre, les parents Brunel et avec deux enfants. Et vraiment, c'est un dossier assez exceptionnel et assez hors norme. Dans cette affaire-là et dans ce genre de dossier. Oui. Et il faut rajouter que la façon dont Dominique Brunel a procédé est encore plus hors norme, puisque voilà un garçon qui a organisé de façon minutieuse, avec une détermination, avec un sang-froid extraordinaire, cette affaire, puisque le lendemain du meurtre de son frère, donc de l'assassinat de son frère, qui est intervenu, selon les calculs, selon les éléments, le 13 octobre 2015, dès le lendemain, Dominique Brunel se débrouillait pour faire rapatrier tous les comptes de son frère sur des comptes à lui, procéder à la vente de la moto le soir lendemain, c'est-à-dire le 15 octobre.
C'est ce que Stéphane Boucher évoquait juste avant qu'on vous prenne à l'antenne. Stéphane Boucher, voulait vous adresser à Maître Le Maire?
Non, mais oui. C'est vrai que pour Maître Le Maire, c'est un dossier assez hors norme parce qu'il y a très peu de cas d'homicide et la portée émotionnelle de cette affaire est quand même exceptionnelle, je dirais. Oui. Pour avoir travaillé sur beaucoup d'affaires, celle-là a une saveur, je dirais.
Elle reste hors norme, quoi.
Voilà. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une course contre la montre qui s'est un peu engagée avec avec la justice.
Oui, parce
vu l'âge des parents, c'est quand même voilà, et ça c'est aussi c'est encore un élément. Voilà.
Et en même temps, ce qui les fait tenir, c'est qu'ils veulent absolument.
C'est le combat, c'est le dernier
procès, quoi.
C'est le dernier combat de leur vie et ils
compris.
Veulent.
Voilà. Oui, le combat des parents aujourd'hui est de faire en sorte, puisque Dominique Brunel a reconnu les faits, il conteste non seulement évidemment la préméditation, mais également l'intention homicide.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'il dit je ne voulais pas tuer mon frère. Mais enfin, je ne peux pas dévoiler les éléments du dossier car c'est une affaire qui est actuellement en cours d'instruction. Et vous savez, nous sommes tenus par le secret de l'instruction,
bien
donc
sûr,
je ne peux pas vous donner un certain nombre d'éléments.
Mmh.
Je ne veux pas trahir du tout ce secret, ni le violer, bien sûr.
Mmh.
Mais il ressort des éléments du dossier et même des déclarations de M. Dominique Brunel que non seulement il a tué son frère, à mon sens, volontairement, mais en plus, bien entendu, après l'avoir organisé dès le Panama. Donc c'est vraiment un meurtre avec préméditation, bien sûr.
Alors évidemment, on revisitera cette partie de l'affaire et c'est ce débat qui sera au centre du prochain procès, évidemment, avec votre confrère, maître Farid Farissi, qui est, je le rappelle, le défenseur, l'avocat de Dominique Brunel. Je vous remercie beaucoup, maître Louis-Alain Le Maire. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Une pause tout de suite et on se retrouve dans un tout petit instant avec Stéphane Boucher.
RTL aime la musique.
RTL c'est
des nouveautés.
Don't be afraid to catch fish.
Des découvertes.
Mais aussi des standards.
RTL, première radio de France. L'heure du crime sur RTL.
Stéphane Boucher, journaliste et réalisateur de télévision, est l'invité de l'heure du crime. On revient là-dessus. Tout à l'heure, je vous demanderai des... c'est pas très habituel entre journalistes, mais plus tard dans l'émission, j'aimerais bien que vous nous passiez quelques instants à nous dire comment vous-même vous avez vécu cette enquête, parce qu'on n'en sort pas indemne, je crois. Personne n'en sort indemne. Mais là, pour l'instant, on est dans les faits, toujours, dans l'enquête qui se poursuit, avec toutes ces découvertes que vous avez rappelées de la section de recherche de la gendarmerie de Marseille. Ce fugitif qui va finir donc, alors je ne sais plus combien de temps après, mais par être arrêté à son domicile à Panama City.
Oui, donc il y a le juge d'instruction très rapidement délivre un mandat d'arrêt international contre Dominique Brunel. Ça veut dire qu'il est recherché dans 200 pays du monde, donc quasiment sur la planète entière. Et donc, on sait qu'il est au Panama. Le Panama, c'est une sorte de narco-État qui est pas forcément, enfin, qui a cette réputation, qui n'est pas forcément un pays avec des accords d'extradition avec la France. Et dans les cas d'extradition, ça peut être un des pays à problème, je dirais. Et donc, le juge délivre un mandat d'arrêt sans trop d'illusions sur l'exécution du mandat d'arrêt. Oui. Et donc, les mois passent, et les parents Brunel, au bout d'un moment, sachant que ça ne bouge pas trop, décident de faire une conférence de presse avec des journalistes de la presse locale à Avignon. Et donc lance un appel un peu solennel à leur fils en lui demandant de se rendre. Voilà, ça passe par, c'est juste la presse locale qui évoque ça, mais visiblement ça a fait bouger les choses. Alors je sais pas si c'est à la chancellerie, au Quai d'Orsay, ou en tout cas la justice française s'est mise en marche, je dirais. Et donc contre toute attente, un an après les faits, Dominique Brunel a été arrêté devant chez lui. Il était en train de bricoler sa voiture à Panama City. Il a été embarqué par la police panaméenne. Il a passé 8 jours en garde à vue. Donc 8 jours en garde à vue, c'est déjà pas mal. Et après, il a été écroué à la prison centrale de Panama City. Donc on peut imaginer que ce n'est pas les conditions les plus...
Mais puis extradé, quoi. En fait,
voilà,
finalement,
ça s'est passé assez rapidement.
C'est passé très rapidement.
Et il est rentré en France un an à peu près après les faits, juste avant les fêtes de Noël de 2016.
Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est à partir de novembre 2016 qu'on va avoir la version. En tout cas, il n'y a pas eu de témoin drame.
Non, c'est un huis clos entre les deux frères, donc il n'y a pas de témoin. Ouais. Donc,
comment il explique ça, lui, alors?
Donc Dominique qu'il vient régulièrement, pas forcément tous les ans, mais il venait voir ses enfants, parce qu'il a des enfants encore qui habitent dans la région. Ouais. Et ça lui arrive de résider chez son frère. Et ce que dit Dominique, c'est qu'il y a eu une sorte de huis clos entre les deux, que lui voulait, était pas trop mobile, parce qu'on est quand même un peu à la campagne, je dirais, et qu'il avait besoin d'une voiture, et donc il y aurait eu un différend entre les deux frères.
Il voulait emprunter la voiture de son frère.
Voilà, en fait, tout ça est assez flou, parce que ça tient uniquement...
Et son frère aurait refusé.
Voilà, mais ça tient uniquement aux déclarations de Dominique, et il dit aussi que les parents qui étaient au téléphone avec Jean-Marc l'auraient dit, ne lui prête pas la voiture. En fait, tout ça, c'est une sorte de pataquès entre les deux frères, avec les parents qui sont un peu à distance. Et il dit que le soir des événements, il y aurait eu une altercation, que Jean-Marc avait bu, ce qui n'a pas été non plus établi par la suite de l'enquête, et qu'il se serait battu, et que dans la bagarre, enfin dans l'altercation, il aurait pris un objet contondant et il aurait frappé son frère. Donc sa version, c'est de dire qu'il y a eu effectivement des coups, mais qu'il n'y avait pas d'intention homicide, donc on serait plutôt violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est sa ligne de défense, mais qui ne tient pas actuellement, parce qu'on est plutôt sur un assassinat parfaitement prémédité.
C'est-à-dire qu'il faudrait voir quelles sont ses réponses quand on lui demande, parce que c'est vrai que je crois que c'est les parents ou c'est vous dans le film qui avez utilisé l'expression après le meurtre. En fait, il se conduit comme... Vous dites comme un coucou.
Oui,
l'oiseau qui va dans le nid des autres pour en faire le sien, quoi.
Il se glisse dans les pantoufles et la robe de chambre de son frère, on peut dire, et il prend sa place, en fait. Et c'est ça qui est quand même étonnant. Alors, est-ce que c'était sur fond de jalousie? Est-ce qu'il voulait inconsciemment prendre la place de son frère? Voilà, en fait, ça pose tout un tas de questions.
Alors, ce qui serait très intéressant, évidemment, dans le futur procès, je pense qu'il est trop tôt pour donner une date, vous confirmez.
Les instructions criminelles sont assez longues, mais c'est vrai, comme je le disais, on est engagé dans cette course contre la montre, vu l'âge des parents, et je sais que la justice et le juge d'instruction
peuvent tenir compte
ont ce paramètre en tête, et je pense que... Peut-être que la justice fera diligence, c'est pas tout le temps le cas, mais là, vu, c'est un cas de force majeure. Je dirais.
Oui, parce que je reviens là à votre film, vraiment remarquable, parce que vous avez rencontré absolument tous les acteurs possibles de ce dossier, et notamment des interviews extrêmement émouvante d'Irène et de Michel. Vous leur avez demandé de parler de leurs enfants. Et j'ai sous les yeux le script de quelques-unes des réponses qu'ils vous ont données. En parlant des deux, donc de Dominique et de Jean-Marc, Irène, elle vous dit on les a mis dans les mêmes écoles, dans des écoles privées, on les a élevés de la même façon, mais Dominique est né comme ça. Il avait toujours besoin d'argent, il n'avait pas envie de travailler, il n'avait pas envie de se lever le matin. Et en fait,
c'est un portrait. Les parents et notamment la mère Irène dressent un portrait très à charge de Dominique. Et en fait, on voit quand même qu'il y avait l'un qui incarnait le bien et l'autre qui, à leurs yeux, incarnait le mal. Le portrait qu'en dresse son avocat, maître Farid Farissi, qu'on entendra tout à l'heure, est beaucoup plus nuancé parce qu'en fait, il explique aussi que Dominique s'était un peu extrait du carcan familial qui était assez pesant parce qu'on comprend dans cette famille que la mère, Madame Brunel, dirige un peu les choses. Ouais, et en fait, il y avait une sorte de pesanteur familiale. Et donc, Dominique dit qu'il est parti pour échapper à tout ça. Donc, on est vraiment dans un scénario de rivalité fraternelle entre des parents qui ont un fils préféré et l'autre qui est un peu considéré comme un bon à rien, je dirais.
Ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir ce que les psychiatres ou les psychologues auront à dire.
Mais je pense que le portrait fait par les parents est un peu excessif aussi. Je pense qu'on est plus en nuance. Dominique est peut-être un personnage plus complexe
qu'il ne paraît comme
ça. Parce qu'en fait, lui, il a épousé une femme. Il avait épousé au Panama une femme beaucoup plus jeune que lui. Il avait pris une autre direction. Et en fait, est-ce que ce n'est pas le décalage entre les deux frères qui a été un peu le ferment de cette histoire?
Est-ce que ce n'est pas quelque chose dont les racines plongent beaucoup plus loin?
Ça va très loin. Je pense qu'il faut remonter à l'enfance des frères Brunel, donc Dominique et Jean-Marc, pour comprendre la vérité du dossier. Elle est quand même, je pense, très très loin dans l'histoire familiale des Brunel.
Alors, on va faire une nouvelle pause. Ça sera d'ailleurs la dernière dans cette émission. Et ensuite, nous prendrons longuement en ligne pour qu'il ait le temps de s'exprimer, bien sûr, comme on le fait systématiquement dans ce genre de dossier. Nous allons prendre Maître Farid Farissi, qui est avocat au barreau d'Avignon et qui est l'avocat de Dominique Brunel, en ligne pour qu'il nous explique sa lecture particulière de cette affaire et puis aussi qu'il nous donne, qu'il nous rappelle en tout cas, quelles sont les explications que donne son client, donc Dominique Brunel.
Sachant que l'autopsie a révélé qu'il y avait plusieurs coups très violents portés derrière la tête et la thèse d'une altercation qui aurait mal tourné quand même. Et puis les mains attachées dans le dos, jetées dans le puits derrière. Je pense que s'il y avait une altercation, il aurait pu appeler les secours.
On verra ce que Maître Farid Farissi aura à nous dire sur cet aspect-là des choses et sur les constatations. Effectivement, comme on dit, les faits sont têtus. Quelquefois, ils sont en contradiction avec les déclarations des uns et des autres. Nous allons voir ça dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
C'est la dernière partie de cette émission consacrée à cette affaire de fratricide, donc enquêtée par Stéphane Boucher, qui nous en parle depuis le début de l'émission. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de procès, qu'il y a eu une requalification de la mise en cause de Dominique Brunel, donc accusé maintenant d'avoir tué avec préméditation son frère. On a évidemment envie d'entendre le point de vue d'abord de Dominique Brunel par l'intermédiaire de son défenseur, Maître Farid Farissi, qui est en ligne. Bonjour maître.
Oui, bonjour monsieur Pradel.
Alors c'est
bonjour,
très
monsieur Boucher.
C'est très complexe ce genre d'affaire parce que on a à la fois une sorte de, comment dire, de terrible réprobation sur le fait qu'un frère qui tue un autre et en même temps vous dites mais ce que dit Dominique Brunel n'a rien à voir avec les accusations qui sont portées contre lui.
Exactement, exactement. La version qui nous est donnée par la justice et par les parents de Dominique Brunel n'ont rien à voir avec ce qui s'est réellement passé dans le huis clos. Alors, il faut rappeler que dans ce huis clos-là, il n'y avait que Jean-Marc Brunel et Dominique Brunel. Et seulement eux deux, alors il y en a un qui est décédé, seulement eux deux ont connaissance de ce qui s'est réellement passé ce soir-là.
D'où l'importance des constatations médico-légales, puisque...
Je suis totalement d'accord avec vous, et j'ai écouté un peu l'émission de tout à l'heure, et M. Boucher a dit que Jean-Marc n'avait pas bu le soir des faits, c'est public, cette question-là, il avait bu, les expertises le démontrent.
Donc, autant pour moi.
L'altercation dans le sens... qu'on a expliqué, en tout cas que mon client explique, Dominique Brunel, est une réalité. Ils se sont battus et c'est avec un objet contondant qu'il a trouvé au domicile qu'il a mis des coups à son frère. Ouais. Alors, peu importe, c'était un peu au hasard parce que son frère Jean-Marc Brunel était beaucoup plus grand et plus fort que lui, et il faisait des arts martiaux.
Ouais, mais est-ce qu'on lit les mains de quelqu'un qu'on vient, au cours d'une altercation, malheureusement, de frapper?
Alors, monsieur Pradel, c'est post-mortem ce qui s'est passé, c'est-à-dire il a voulu maquiller, et ça c'est l'explication qu'il a donnée, il a voulu maquiller cette mort, en un crime crapuleux.
D'accord, il a voulu, alors ça c'est très important, il faut que vous nous expliquiez ça en détail, c'est-à-dire qu'il dit oui, voilà, bien sûr j'ai lié les mains du cadavre de mon frère, mais après sa mort, et c'est parce que, voilà, pris par ce qui venait de se passer, j'ai cherché un échappatoire à égarer les soupçons sur peut-être un cambriolage qui aurait mal tourné, quoi.
Exactement, et surtout monsieur Pradel, connaissant ses parents, qui lui vouaient avant même cette histoire une haine, ils vouaient une haine. Ils sont dans le dossier très vindicatif. C'est eux qui ont mis la pression depuis des mois pour que ce soit requalifié en assassinat. Il n'y a qu'un seul élément qui pourrait aller dans ce sens-là, mais même cet élément-là, à mon sens, on pourra le balayer. Pour moi, on est sur des coups mortels, et même pas dans l'esprit, même pas dans un homicide, parce que même pour l'homicide, il faut une intention. C'est une bagarre qui a mal tourné. Est-ce que oui ou non, il voulait tuer son frère? Dominique Brunel conteste.
Mais s'il voulait faire croire à un cambriolage qui avait mal tourné, il serait parti le lendemain. Là, il s'installe chez son frère, il va à la banque, il fait des emprunts, il vend une moto.
Je suis totalement d'accord. Justement, ça démontre très bien, ces éléments-là, cette incohérence-là, démontre très bien qu'il était plus lui-même et qu'il faisait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, tel le petit poussé, il se met des cailloux pour qu'on aille vers lui. Donc, si vous êtes dans un meurtre prémédité, et comme le disait tout à l'heure mon excellent confrère, froid, dans ce cas-là, il serait parti immédiatement.
Bon, donc en fait, vous attendez le procès pour dans combien de mois, maître?
Ah ben j'en sais rien, c'est la justice, vous savez, on est des humbles auxiliaires de justice, comme on nous appelle, donc on verra quand ça arrivera, mais de toute façon...
Vous y allez confiant dans la version de...
Moi, je suis confiant dans la version parce que c'est, à mon sens, c'est ce qui s'est réellement passé dans le huis clos. Là, on essaye de nous raconter une histoire et de nous dire qu'il a eu l'idée depuis longtemps. Alors, il faudrait d'autres éléments pour nous montrer qu'il avait eu l'idée depuis longtemps. Pourquoi, si vous préméditez un meurtre, pourquoi utiliser un objet que vous trouvez au domicile, un objet contendant trouvé au domicile?
On a retrouvé cet objet?
Au domicile, il l'a trouvé.
On l'a retrouvé
dans le salon.
On a identifié l'objet qui a causé la mort.
Je ne peux pas vous en dire plus.
Non, moi je vous pose la question parce que nous on est extérieur au dossier, évidemment.
Oui, mais je ne peux pas vous en dire plus. D'accord. Je ne peux pas vous en dire plus.
D'accord.
Il y a un élément qui est rentré dans l'enquête il y a très peu de temps et qui correspond à ce que dit Dominique Brunel. C'est ça qui est bien. Pour une fois, on l'écoute un petit peu et on a trouvé un élément. Qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire que Jean-Marc Brunel avait des armes, pourquoi Dominique n'aurait pas utilisé l'une des armes de son frère?
Écoutez, maître, en tout cas, merci. Ce qu'on tenait, c'est surtout à ce que les deux versions soient exprimées très clairement au cours de l'émission. Ce sont ces versions qui vont s'opposer, bien sûr, au cours du prochain procès. Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné votre éclairage au nom de votre client, donc Dominique Brunel. Merci.
C'était
maître Farid Farissi du barreau d'Avignon. On se quitte, Stéphane Boucher, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission, mais quand même, juste cette question... qu'est-ce qui vous reste de cette enquête, vous qui êtes un des spécialistes des affaires criminelles et des enquêtes sur les affaires criminelles?
Disons que j'en ai traité beaucoup, des affaires disons plus graves, avec des tueurs en série, ce genre de choses, mais celle-là, elle a une tonalité, une coloration particulière, parce qu'un homicide, comme j'ai dit, c'est quelque chose d'assez rare. C'est vrai que les parricides, infanticides, il y en a quasiment, hélas, toutes les semaines. Et là, on est quand même dans
un... fratricides, c'est très rare.
Voilà, et là, c'est vrai qu'on peut peut-être en vouloir à un moment donné à son frère, c'est quelque chose qu'on s'imagine, mais en fait, très rarement arrive dans sa concrétisation. Et là, on est quand même dans un cas où... au-delà des faits criminels qui sont ce qu'ils sont, il y a quand même une histoire familiale et en fait une rivalité, c'est-à-dire que ses parents ont fait de leur fils, de Jean-Marc, leur fils préféré, et de Dominique un peu le pestiféré de la famille. Et je pense que la source dans cette histoire, elle est autour de là, et je pense que le procès d'assises permettra peut-être de lever certaines zones d'ombre autour de cette histoire.
Je vous remercie beaucoup. L'émission est terminée maintenant. On se retrouve très vite.